Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Je ne tolère aucun hôte à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers. Succulente cette cuisine, n'est-ce pas, professeur?
Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte.
Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties de bouquins. Avec trois livres sur le cinéma, Richard Fleischer 1 et 2, parus chez Marais Éditeur, le volume 1 s'intitule « Survivre à Hollywood ». C'est l'autobiographie très attendue par de nombreux cinéphiles de feu Richard Fleischer. Le deuxième, Richard Fleischer, une œuvre, est signé Nicolas Télop, que nous avons rencontré pour une interview des plus passionnantes. Autre ouvrage au programme, le dernier opus en date de la collection Contre-champ aux éditions Vendémiaire, à savoir Monty Python, Sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones, par Justine Breton. Justine Breton, que nous avons également interviewé, entretien que vous pourrez écouter dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons également aborder un ouvrage qui n'est pas un livre sur le cinéma, mais qui s'en inspire largement, Acid Cop, le nouveau volume signé Ogrof de la collection Carnage aux éditions Zone 52. Et terminons ce tour d'horizon des sorties bouquins, non pas avec de la littérature, mais de la BD Presse de Ben Caldwell et Mark Russell, édité chez Urban Comics. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka Miklusova, Jérémy Grima, Franck Laffont et Pierre-Julien Marais pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bang Bang. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Gérald Duchossois qui s'y colle. Gérald Duchossois, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Alors, je suis Gérald Duchossois, je travaille au Festival de Cannes, à la section Cannes Classics, où nous programmons des films de patrimoine nouvellement restaurés, ainsi que des documentaires sur le cinéma, des hommages et des rencontres avec des artistes. Et je travaille également au Festival Lumière, au marché international du film classique, où nous mettons à disposition des professionnels de l'industrie du cinéma de patrimoine tout un ensemble de rendez-vous. J'ai également coécrit avec mon ami Romain Vandestichel le livre Mario Bava, le magicien des couleurs, et c'est probablement à ce titre que je travaille pour Prime Cut à l'heure actuelle.
Pouvez-vous nous présenter votre travail au sein de Prime Cut ?
Nous avons travaillé avec Romain sur un certain nombre d'idées, d'articles qui tiennent à la fois de la musique, de la critique, de l'esprit des réalisateurs qui sont incriminés, si je puis dire. Et puis également, nous œuvrons à des chroniques, aussi bien en ce qui concerne les livres, les DVD Blu-ray ou la musique de film.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
Acid Cop de Zaroff est le numéro 2 de la collection Carnage aux éditions Zone 52, avec toujours une superbe couverture qui mixe Dirty Harry et Harvey Dent, version pile ou face, signée Will Argunas. D'ailleurs, le premier auditeur qui nous rappelle le titre et l'auteur du volume 1 de la collection Carnage gagne un poster et un exemplaire d'Acid Cop. Merci d'envoyer vos réponses sur le mail lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr. Après un premier opus très réussi, donc la collection Carnage s'étoffe avec ce nouveau roman de Zaroff, adepte de la gore touch, qui avait déjà écrit Hécatombe, Bayou et Night Stalker. Il était même venu en parler d'ailleurs dans Culture Prohibée. Alors Acid Cop, c'est quoi? C'est l'histoire d'un flic émule du Mario Cobretti de Cobra, de Georges Pancosmatos, qui a été tourné en 1986, hein, un glorieux film avec Stallone. Histoire d'être clair, le livre cite le film dans son intro et voit son intrigue débuter à Hell's Kitchen, là où Stallone a grandi, jeunesse qui lui a inspiré l'excellent La Taverne de l'Enfer. Alors ce flic, c'est Frank Beriglia, flic hardcore aux méthodes douteuses qui n'a de cesse de citer l'inspecteur Harry. Hein. Et tout va partir en sucette pour Frank qui va se transformer en émule de Frank Zito jusqu'à un final explosif. Sec, brutal, sans concession, ce nouveau Zaroff, s'il est moins fou que le premier opus de la collection Carnage, quand même, se lit avec grand plaisir. Et comme le dit Beriglia, il ne faut pas s'attarder sur les moyens, mais sur les résultats.
C'est ici que la loi s'arrête et que moi... j'interviens.
Nous allons aborder un très beau travail éditorial signé Marais Éditeur et consacré à un metteur en scène que nous adorons dans notre rédaction, Richard Fleischer. Le génial auteur de Soleil Vert, Le Génie du Mal, L'Étrangleur de Rellington Place, Les Vikings, etc., etc., est honoré de deux gros volumes bien épais. Le premier, Survivre à Hollywood, est la passionnante autobiographie de Richard Fleischer. Avec beaucoup d'humilité, Fleischer évoque, sur un peu plus de 400 pages, nombre de ses souvenirs. D'une grande humilité, plutôt que de s'étendre longuement sur ses œuvres les plus emblématiques, telles L'Étrangleur de Boston ou Les Flics ne dorment pas la nuit, Fleischer revient sur ses relations avec nombre de personnalités de l'histoire du cinéma. Orson Welles, Daryl Zanuck, John Wayne, qui se révèle un brin rancunier, Howard Hughes, Robert Mitchum, qui se révèle un brin alcoolique, on s'en doutait un peu, Akira Kurosawa et beaucoup d'autres. Certains chapitres sont plus marquants, à l'image de celui sur Walt Disney, ennemi juré de son père Max Fleischer, avec qui il travaille sur 20 milieux sous les mers. Celui sur Edward G. Robinson est évidemment très émouvant. Et celui hilarant sur Kirk Douglas est grandement recommandé. La star génialement insupportable, hein, Kirk Douglas, va lui pourrir la vie quand même durant deux tournages, ceux de 20 milieux sous les mers et Les Vikings. Et au final, Douglas lui assène une réplique qui va donner en partie son titre au livre. Tu es le seul réalisateur à avoir survécu à deux films avec moi. Tout aussi indispensable est le volume 2, titré Richard Fleischer, une œuvre, livre qui analyse en détail la filmographie du maître, un livre référent signé Nicolas Télope, l'un des principaux artisans de la revue La Septième Obsession, un livre que nous vous proposons d'aborder en compagnie de son auteur, Nicolas Télope. Donc Nicolas Télope, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Votre livre s'intitule « Richard Fleischer, une œuvre ». C'est très important pour vous, c'est une manière de tordre le cou à ceux qui l'ont toujours considéré comme un simple faiseur ?
Oui, c'est vraiment... La question du titre a longtemps été discutée. Il y avait un autre titre qui était en jeu, qui était « Les grandes profondeurs », parce que c'est un thème qui est aussi très récurrent dans son œuvre, et puis c'était assez joli, c'était assez poétique, j'aimais beaucoup. Mais en même temps, Richard Fleischer, une œuvre, c'est vraiment programmatique. Parce que l'idée, effectivement, c'est de montrer que c'est pas un faiseur à la merci des producteurs et des studios, mais vraiment quelqu'un qui a réussi à construire une œuvre de bout en bout de sa carrière, en fait. Parce que dès son premier film, c'est un chef-d'œuvre qui porte en germe toute la suite et jusqu'à la fin, en dépit d'une décennie, les années 80, qui est mal aimée, il continue à tenir certains de ses thèmes, même si évidemment c'est plus aussi flamboyant que les décennies précédentes.
Alors, avant de rentrer plus en détail dans le livre, hein, je voulais vous demander, vous, Nicolas Télope, quand et comment vous avez rencontré l'œuvre de Richard Fleischer ?
Alors, quand je ne saurais plus vraiment dire exactement la date, mais j'étais très petit, ça c'est certain. C'était devant la télévision, c'était une émission Disney Channel qui était consacrée à... C'est les années 80, je précise. Qui était consacrée à présenter des scènes d'anthologie en fait, du cinéma de Walt Disney, que ce soit des dessins animés ou des films. Et régulièrement, très régulièrement, je voyais cette scène de 20 milieux sous les mers où il y a ce combat homérique avec le poulpe géant. Et j'étais totalement fasciné, évidemment. Et ça a vraiment marqué mon imaginaire et mon goût pour le cinéma d'aventure, pour le cinéma de science-fiction, enfin pour tout ce qui est de l'ordre des genres, quoi, en fait, hein, auquel Fletcher a largement contribué. Et je l'ai vu un peu plus tard en entier, ce film-là, et c'est un amour qui ne m'a jamais quitté. Parallèlement à ça, il y avait évidemment Les Vikings, parce que c'est un film qui passait aussi énormément à la télévision à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, on le revoit régulièrement. Et sans doute aussi, assez tôt, j'ai dû voir Soleil Vert. Et c'est les trois films qui n'ont jamais cessé d'accompagner ma cinéphilie, en quelque sorte, même balbutiante. Et après, voilà, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à recouper le nom de Fletcher, à le trouver dans d'autres films, et puis à ne faire que, comment dire, entretenir, grandir ma fascination pour lui.
Bon, c'est pas ses plus mauvais films en même temps.
Oui, ça, voilà.
On démarre fort. Bon, il n'y en a pas beaucoup de mauvais films. Pourquoi le choix d'un... Après tout, vous auriez pu faire un livre thématique. Pourquoi vous avez fait le choix d'aborder ça de manière chronologique, la carrière de Fletcher?
Eh ben, c'était pas calculé du tout. Quand j'ai proposé le livre à Pierre-Julien Marès, mon éditeur, je lui ai dit, écoute, je ferai pas un gros livre, hein. Je ferai un livre comme j'ai l'habitude d'en faire, c'est-à-dire un livre d'à peu près 150 pages, maximum 200, et justement je voulais en faire quelque chose de thématique. Et puis ma fascination pour Fletcher m'a rattrapé, parce que en écrivant le premier chapitre qui devait être consacré au polar de la RKO, en fait ça a pris des proportions assez importantes. Et je me suis dit que je m'en sortirais jamais autrement qu'en faisant quelque chose de très simple, chronologique, et en abordant en fait toute sa carrière, parce que je voulais rien laisser de côté, en fait.
Et d'ailleurs, vous le rappelez, à l'instant, vous parliez du livre, que vous deviez faire un petit livre qui devient un gros livre, et c'est aussi un beau livre, richement illustré. Il y a des photos rares, il y a des coupures de presse. Comment vous avez travaillé sur l'iconographie de cet ouvrage ?
Alors ça, c'est un travail dont le mérite revient entièrement à Pierre-Julien Marès, l'éditeur, hein, qui a été chercher toute l'iconographie, on en a discuté, mais mon intervention a vraiment été à la marge. C'est lui qui a fait ce travail et qui l'a vu assez vite comme effectivement un beau livre, quelque chose qui serait... Bon, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais quelque chose de presque définitif, en fait, quelque chose qui serait de l'ordre de la somme. Et voilà, enfin, ce serait vraiment à lui de lui attribuer ce mérite et puis de lui poser la question, du coup.
Je n'y manquerai pas, mais ce ne sera pas pour cette émission, malheureusement. Mais vous le disiez à l'instant, le livre, donc Richard Fletcher, une œuvre, démarre par la période RKO. Et dès ses débuts, hein, Fletcher est remarqué en fait, par la profession. Il y a Child of Divorce en 1946, son premier film, qui reçoit un accueil très favorable. Il a un Oscar en 1948 pour Design for Death, un documentaire dit de propagande. Pourtant, cette période... elle paraît difficile pour lui, pour Richard Fletcher.
Bah, en réalité, c'est le cas de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en germe, dans la RKO, il y a un peu le modèle réduit de ce que sera en fait toute sa carrière à Hollywood. Et effectivement, vous le disiez, il a été remarqué très tôt. En fait, il est remarqué même avant de faire son premier film, parce que c'est un chasseur de talent de la RKO qui le repère lors d'une représentation de pièces théâtrales telles qu'il faisait quand il était étudiant, parce que ses études, outre celles en psychologie, il en a fait surtout dans le monde du théâtre, et donc il était déjà un petit peu reconnu, malgré son jeune âge et malgré le côté non professionnel encore de la chose. Et donc il y avait un chasseur de talent de la RKO qui a repéré son aptitude à la mise en scène et qui l'a invité en fait à rejoindre le studio à Los Angeles. Mais il l'a pas fait tout de suite pour plusieurs raisons, parce que c'était la guerre déjà, parce qu'il était encore un peu jeune, parce que il voulait faire ses expériences de son côté et qu'il a commencé à travailler en fait dans la branche actualité de la RKO. Et donc il s'est forgé une expérience en fait technique sur ce terrain-là. Et après, voilà, il a quand même été parachuté à Los Angeles pour ce premier film auquel il a contribué à l'écriture et dont il est l'auteur entier, quoi, en fait. Mais aussitôt après, Child of Divorce, qui effectivement reçoit un accueil favorable aussi bien auprès du public que de la critique, on lui propose un film lamentable, un scénario en tout cas lamentable, qui est Banjo et moi. Donc une histoire de chien et de petite fille, personne n'aurait pu en faire quoi que ce soit de, de palpitant. Et en fait, cette articulation entre ces deux films, elle résume un peu le sort qui va être fait à la carrière de Fletcher pendant les décennies qui viennent, parce que c'est à la fois une reconnaissance de la part des professionnels, quoi, des studios et tout ça, mais en même temps, ça les dérange pas de lui proposer des films ou des scénarios, en tout cas, assez minables ou pas à la hauteur de ce qu'il vient de produire. Et régulièrement, en fait, il est face à ce problème. Et c'est aussi ça qui articule en fait les décennies, c'est que au bout de chaque décennie, même si je triche un peu sur les décennies, parce que quelquefois je dépasse un peu le cadre d'une décennie, mais au bout de chaque décennie, en fait, il y a une déception terrible de la part de Fletcher, parce que il croit être arrivé à un certain stade de reconnaissance en fait dans sa carrière, et non, il s'aperçoit qu'on continue à le traité en fait comme quelqu'un qui doit obéir aux ordres, etc. Et donc chaque décennie est l'occasion d'un recommencement de sa carrière et de sa mise à l'épreuve en fait de ses attitudes d'auteur.
Une sacrée épreuve pour lui aussi, c'est quand il quitte la RKO et en fin de compte la personne qui va lui donner la notoriété, qui va lui offrir une grande notoriété, c'est Walt Disney. Et Walt Disney, c'était l'ennemi juré de son père. Alors on voit que ça l'a beaucoup travaillé quand on lit son autobiographie. Et c'est lui qui va faire décoller sa carrière. C'est incroyable, ça.
Oui, voilà. C'est encore une fois caractéristique hein, de ce qu'il vit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie tragique. Parce que, ouais, il y a un rapport au père qui est assez complexe. Lui, Fletcher, il adore son père. Max Fletcher hein, qui est un génie de l'animation hein, sans doute au même titre que Disney, mais bon il est précurseur en la matière, Max Fletcher, et les deux sont ennemis parce que à cause de l'empire qu'il a construit Walt Disney, Max Fletcher a été relégué au second plan, voire même très rapidement ruiné. Et donc voilà, ouais, il se retrouve dans une situation extrêmement délicate parce que en ayant cette proposition de la part de Walt Disney de réaliser donc 20 milieux sous les mers, bah il se retrouve à devoir trahir son père, quoi, quelque part. Bon, en fait, c'est pas ce qui se passe, hein, parce que son père, Max Fletcher, lui donne l'autorisation sans aucun problème. Tout se passe de manière très très amical. D'ailleurs, les deux hommes se rencontrent, hein, Max Fletcher et Walt Disney, sans qu'ils se mettent à se battre. Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a quand même quelque chose de d'étrange et de désagréable. Enfin, en tout cas, de problématique pour Fletcher à ce moment-là. Surtout qu'il en devient à avoir un sentiment de culpabilité parce qu'il s'entend très bien avec Walt Disney. Donc, il se dit qu'il est en train de trahir son père à tous les points de vue parce qu'il ne voit pas Walt Disney comme le tyran et comme l'escroc que son père le voyait en lui. Thank you.
écoutez Nicolas Télop, auteur de Richard Fleischer, une œuvre parue chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée. On découvre que Fleischer, en fait, il a tout le temps cherché l'indépendance et qu'il savait dire non à des scénarios, contrairement à l'image que longtemps la critique a donnée de lui. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on connaît peu par rapport à Fleischer.
Oui, totalement. Et ça, c'est quelque chose qui, à la fin des années 50, va lui jouer un très mauvais tour, quoi, parce qu'effectivement, il refuse un scénario pour un film de John Wayne qu'il trouve indigent. Ça deviendra le grand Sam, je crois, d'Henri Hathaway. Mais lui, il refuse de le tourner parce que, en fait, il n'y a rien à tirer, semble-t-il, de ce scénario à l'époque, en tout cas. Et du coup, ce refus, c'est même pas que c'est mal vu de la part d'Hollywood, c'est même pas envisageable. Et donc, il est un petit peu proscrit du système hollywoodien, et lui-même de toute façon ne veut plus y participer. Et c'est là qu'il décide en fait de partir en Europe et de rejoindre Dary Zanuck qui lui-même s'est expatrié et tente de créer une carrière de producteur indépendant en France. Et bon, là c'est une période qui est très difficile parce que je pense qu'il a du mal à trouver ses repères, il est déstabilisé d'avoir quitté en fait Hollywood, qui était son terrain de jeu depuis déjà une quinzaine d'années. Et puis en plus, Daryl Zanuck lui-même n'est pas au mieux de sa forme, parce qu'il est totalement sous l'emprise de Juliette Gréco. Il l'adore. Enfin... Il est complètement gâteux avec elle, et donc il veut lui faire tourner des scénarios qui sont absolument invraisemblables, mais l'essentiel étant que ça mette en vedette donc Juliette Gréco. Et donc Richard Fleischer se retrouve à faire deux films qui sont vraiment parmi les deux plus mauvais de sa carrière, qui sont Drame dans un miroir et Le Grand Risque. Et tout ça, ouais, à cause de ce refus, en fait, de se plier au dictat hollywoodien. Et cette errance européenne, elle va durer pendant très longtemps, parce que il va quand même réussir à tourner un très grand film qui est Barabbas, en Italie. Et puis après, il va passer 2-3 ans sans pouvoir réaliser un seul projet, en enchaînant des déceptions, des trahisons de la part de producteurs divers et variés, de projets qui coulent. Et c'est là qu'il se retrouve contraint de retourner à Hollywood, mais il retourne à Hollywood de la grande porte, vu qu'il va y tourner Le Voyage Fantastique.
D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous choisissez de revenir, hein, d'où le titre d'ailleurs, Richard Fleischer, une œuvre, en détail sur certaines séquences marquantes de ses films, qui n'en manquent pas, et vous décelez nombre de récurrences dans son œuvre, qui en font indéniablement un auteur. Et je pense par exemple à un paragraphe, je pourrais en citer d'autres, mais comme Autre fille sur la balançoire, parce que La fille sur la balançoire, c'est souvent un film qu'on oublie aussi quand on parle de Fleischer. Est-ce que vous ne pensez pas que Fleischer, en fait, il était trop jeune pour le vieil Hollywood, et il était trop vieux pour le nouvel Hollywood, en fait, et que ça l'a desservi? Vous parlez même, vous, d'une malédiction en évoquant le début des années 60 dont vous parliez à l'instant. Il n'avait pas de bol, quoi. Il n'est pas arrivé au bon moment, on va dire.
Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il y a un problème de rendez-vous manqué quelque part. De toute façon, les années 60, c'est effectivement une sorte de décennie, un contre-temps pour lui. Mais même les années 70, parce que il fait partie. Moi, je le range totalement dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, alors que lui, il fait partie de l'ancien. Donc là aussi, il y a quelque chose de déséquilibré, si vous voulez, dans sa façon de voir les choses. Bon, il n'y a pas que lui, hein. On peut parler de Robert Wise, par exemple, comme auteurs qui ont réussi leur transition vers le nouvel Hollywood. Mais oui, il y a quelque chose qui va pas de soi, en fait, dans sa carrière. Parce que effectivement, il est trop en avance. De toute façon, il faudrait revenir aux origines, hein. Child of Divorce, C'est un film d'une puissance inouïe. Ça critique quand même le modèle hollywoodien, enfin le modèle américain, pardon. L'idéal familial, le confort bourgeois, etc. Enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui cherche à bousculer les choses, qui cherche à critiquer aussi en fait le modèle américain de manière générale. Je pense que c'est ça son principal problème. C'est pas tant qu'il est déplacé dans l'industrie, c'est qu'il est déplacé dans son pays lui-même en fait. Je pense que ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que on peut retracer au fil de sa carrière une histoire du cinéma hollywoodien, mais on peut aussi retracer une sorte d'histoire de l'Amérique quelque part. Un miroir de l'Amérique, mais un miroir qui est déformant, parce que plutôt que de flatter les défauts et l'usine à rêve, quoi, en fait, qu'est l'Amérique entière, lui, il a toujours cherché plutôt à la dénoncer, à la désamorcer et à montrer tout ce qui marche pas. Et c'est ça qui en fait un auteur à contre-temps, quelque part. Parce qu'il est même à contre-temps de son pays et des idéologies de son époque.
Oui, bah vous l'écrivez, hein, dès le génie du mal, il s'en prend avec virulence au libéralisme, il est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, Fleischer, et tout ça trouve un peu son apogée dans les années 70. Alors, il y a le sublime Soleil Vert, film d'une grande acuité, et puis il y a Mandingo. Vous écrivez que l'accueil du film lui a brisé quelque chose en lui. C'est vrai que ce film sur l'esclavage est absolument incroyable.
Bah, Mandingo, c'est un film d'une puissance et d'une violence inouïe. Alors quand je parle de violence, c'est surtout en fait l'atmosphère, le caractère absolument malsain. Il y a quelque chose qui est intemporel. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est un film qui est toujours aussi moderne qu'à l'époque. Et sur la question de l'esclavage et la place de l'Afro-Américain dans la société américaine, franchement, il est indépassable, quoi. Hein. Je vois pas de film qui puisse rivaliser avec le traitement que Fletcher en a fait. Et effectivement, enfin, c'est un chef-d'œuvre, c'est son dernier chef-d'œuvre. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Et il avait mis beaucoup de choses dedans, à la fois politique, à la fois lyrique, à la fois romanesque, à la fois esthétique, parce que la mise en scène est monstrueuse. Et puis, patatras, quoi. Le film est accueilli par la critique et par la profession de façon catastrophique. On va même jusqu'à l'accuser de racisme, alors ce qui est rigolo, quoi, parce que c'est un film qui est manifestement antiraciste. Et donc, ça brise définitivement quelque chose en lui. Mais je dis définitivement parce qu'il n'a cessé d'être déçu, si vous voulez, par sa carrière, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. Chaque décennie se termine par une sorte de déception. Et pour lui, les années 70 se terminent brutalement en 76 avec Mandingo. Et il s'en remettra pas, en fait. Enfin, il s'en remettra pas professionnellement parlant. Enfin, c'est paradoxal parce que Mandingo a un succès commercial assez important. Mais c'est pas ce qu'il cherchait, Fletcher, parce que ses films ont plutôt, en moyenne, hein, de très bons rendements commerciaux. Mais lui, il a envie d'être connu pour son propos artistique et autre, quoi, hein, qu'il soit moral ou politique. Et quand il voit le sort qui est fait à ce film génial, bah, on a l'impression qu'il lâche l'affaire, quoi, quelque part. Il va continuer à faire des films, mais c'est des films qu'il fait un peu par défaut. Et surtout, c'est des films qui, pour une partie du moins, sur lesquels il intervient en tant que, comment dire, que sauveteur, parce que c'était des films qui posaient problème auprès d'autres réalisateurs de première équipe, etc. Et lui, il vient simplement sauver les meubles, quoi, hein, mais de manière totalement désintéressée, sans y mettre beaucoup de personnalité, juste ce qu'il faut de professionnalisme. Et certains films, il va les faire comme ça pour pouvoir accomplir des projets auxquels il tient vraiment. Mais ça se fera jamais, en fait, parce que il est rentré dans cette logique-là de pour le coup, de vraiment de faiseur. C'est pour ça, en fait, aussi que c'est l'image que l'on garde de lui. C'est parce que les dernières années de sa carrière, c'est quand même des décennies, enfin, c'est quand même des années, effectivement, où il met pas beaucoup de lui-même dans les films, mais où, enfin, c'est un peu ambigu. C'est vraiment une période compliquée, hein. pour lui, et puis même à analyser quelque part, parce que il y a plein de pièges quelque part pour la critique dans ces films-là. Mais c'est certain que passer de Mandigo à Conan le Destructeur ou Amityville 3D, enfin il y a un truc qui est violent, quoi. Mais en même temps, pour lui, c'est totalement assumé. Ah. L'idée, c'est en quelque sorte de se moquer d'Hollywood quelque part. Hein. Il y a vraiment cette volonté de se dire, vous voulez que je fasse ça, je vais le faire.
Écoutez Culture Prohibée spécial bouquin. Après cet entretien avec Nicolas Tellop au sujet de Richard Fleischer, une œuvre parue chez Marais Éditeur, je vais me tourner vers mon acolyte qui, lui, lit parfois des livres sans images. Mais là, c'est comme les enfants, vous savez, des images, pas d'images. Mais je crois que là, il en a soupé parce qu'il me semble que tu étais dans une phase universitaire où tu as dû lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Du coup, tu t'es détendu avec une BD. Une BD qui m'a l'air quand même bien, bien politisée, qui m'a l'air bien sympathique. On va te laisser tout de suite, Damien, nous parler un peu de cette BD qui s'appelle Prèze.
De quoi parle Prèze ? Eh bien, Beth Roth vient d'être élue présidente des États-Unis à seulement 19 ans. Bienvenue dans un futur où n'importe quelle corporation peut se présenter à la présidence, où les pauvres peuvent désormais louer leur corps pour afficher les pubs de leurs sponsors et où les tacos sont désormais livrés par drone. Dans ce monde, notre seul espoir serait-il vraiment cette gamine de 19 ans découverte sur Twitter ? C'est un résumé très simple pour une œuvre très complexe qui a le talent que devrait avoir n'importe quel ouvrage de SF et de dystopie. Taper juste et taper dans l'actualité. C'est un enchaînement de scènes et de réflexions absolument jouissifs. Vous savez comment Beth est élu ? Pour relancer l'intérêt des gens pour les élections, l'âge des électeurs est abaissé et il est permis de voter via Twitter. Beth était dans les top tendances de Twitter contre sa volonté. Les élections ont donné une égalité parfaite entre les candidats qui étaient alors présentés et une voix à Beth. Dès lors, les candidats à la présidentielle vont faire du démarchage auprès des différents sénateurs, toujours à vide de plus, même au prix de la logique. On a par exemple le Colorado qui demande une base navale. Le Colorado, si vous ne pouvez pas le situer, c'est pile le cœur des États-Unis, là où il n'y a ni fleuve ni océan. Dès lors, les différents sénateurs vont utiliser Beth comme pression, expliquant qu'ils vont lui donner une voix si jamais on leur donne pas plus. Au final, dans ce Capharnaüm qui représente leur chambre des sénats, ils vont élire Beth en tant que présidente. On peut continuer là-dessus. On peut acheter des chapeaux pistolets qui tirent à action vocale. Pas à reconnaissance vocale, à action vocale. Dites un mot et le coup part. Le slogan, c'est que ce sont des chapeaux pour les vrais patriotes. Et donc, on conseille de mettre des mots patriotiques. Voilà comment débuter une fusillade à grande ampleur dans un regroupement de nationalistes qui vont vous parler de la Constitution, de chapeaux, de drapeaux ou bien d'Amérique. Mais c'est pas juste bête et drôle. C'est même souvent acide. Il y a un débat télévisé contre la loi qui veut protéger les porcs des agressions sexuelles. L'objectif est soi-disant donc d'éviter toute prédation sexuelle des porcs. Le problème, c'est que cette loi permet de construire des abattoirs à 1 mètre des écoles ainsi que des résidences privées des gens. Sauf que s'y opposer, c'est vu comme en faveur des agressions sexuelles envers les cochons. Faut aussi que je vous parle des concepts visuels, car le futur implique aussi des visuels assez incroyables. Vous avez les machines de guerre, les tenues, la coupe des gens. Ce que j'aime beaucoup, c'est les grandes entreprises ou les conglomérats qui ont tendance à être représentés par un smiley holographique devant eux. Ce qui fait qu'au final, ils n'ont pas vraiment de vrai visage, ils sont dépersonnifiés. Et le truc le plus dingue, c'est que le comic s'est sorti en 2016. Il a fallu attendre 2020 pour l'avoir. L'ironie du sort étant que Urban Comics avait prévu la sortie en 2020 et que dans le comics, l'un des contextes sociaux principaux qui crée finalement la tension, c'est une épidémie mondiale de grippe féline. Dès lors, on y voit un gouvernement négocier pour avoir un vaccin ou comment juste le conglomérat pharmaceutique s'amuse à faire des annonces de vaccins pour faire grossir ses chiffres à la bourse. C'est un comics rempli de bonnes idées. Je suis assez estomaqué que ce soit le remake d'un comics des années 70. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle. La série était prévue avec 12 numéros et elle n'en a eu que 6. Donc si vous débutez l'aventure, soyez au courant qu'elle n'a pas de fin.
Merci Damien. On va continuer avec un livre qui lui a un début et une fin, puisqu'il s'attache à un film qui lui a un début et une fin. Et une fin très marquante d'ailleurs, mais ça on va en parler tout de suite avec l'auteur du livre, Justine Breton, donc, qui a signé Monty Python Sacré Graal de Terry Gilliams et Terry Jones, paru dans la collection Contre-champ aux éditions Vendémiaire. Et c'est un décryptage donc, du film culte hein, de Terry Jones et Terry Gilliam. Et on va tout de suite en parler hein, avec Justine Breton, que nous sommes heureux de retrouver dans notre émission. Pourquoi vous avez choisi de vous attaquer à ce monument qui est Sacré Graal, parce qu'après tout, il existe nombre d'autres illustrations cinématographiques du mythe arthurien.
Alors, c'est vrai qu'il en existe des centaines, peut-être des milliers, hein, si on compte le cinéma, la télévision, sans parler de la bande dessinée, etc. Donc, il y a clairement le choix hein, dans les versions de la légende arthurienne, si bien que chacun peut y trouver son compte aussi. Après, j'ai un faible pour les versions humoristiques. Hein, c'est aussi pour ça que j'avais travaillé sur Kaamelott, parce que c'est la façon dont ces artistes s'emparent d'un matériau épique et tout à fait sérieux hein, quand c'est écrit dans les textes médiévaux. On a une représentation du roi Arthur et de ses chevaliers qui est tout à fait sérieuse et glorifiée. Et c'est comment ils s'emparent de cette matière pour en faire quelque chose de burlesque, donc de très drôle. Et la façon dont justement ils prennent le contre-pied de tout ce qu'on peut attendre des glorieux héros de la légende arthurienne pour en faire dans Sacré Graal, pour faire du roi Arthur un roi un peu dépassé par les événements, qui ne sait pas compter jusqu'à 3. Des chevaliers qui se retrouvent piégés face à un petit lapin blanc. C'est la façon dont ils jouent sur ce contraste que je trouve absolument, absolument fabuleux. Et j'avoue que Sacré Graal fait partie de mes films préférés de tous les temps. Donc c'était aussi une façon de me faire plaisir justement, de pouvoir essayer de décortiquer cette œuvre et de comprendre les raisons de son succès aussi, parce que c'est une œuvre qui est quand même très particulière. Hein. En France, généralement, soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Il y a rarement un entre-deux en fait vis-à-vis de Sacré Graal et surtout de l'humour des Monty Python hein, de façon plus large. Donc voilà, c'était aussi une façon de voir comment, en France aussi, avec nos particularités et notre humour français qui est un peu différent de l'humour anglais, on peut comprendre la façon dont le film a été écrit, la façon dont il joue sur les codes et la façon dont il s'approprie avec brio, je trouve, la légende arthurienne.
Vous l'abordez rapidement dans le livre, mais est-ce que c'est pas très risqué en fait d'analyser une œuvre aussi absurde quand même ?
Risqué, je ne sais pas, plaisant, oui. Après, c'est absurde et en même temps, c'est typiquement une œuvre du nonsense anglais. C'est-à-dire que c'est même au-delà de l'absurde. Le nonsense, c'est la façon dont les auteurs, alors c'est très britannique, donc en France on a un peu moins cette tradition, mais c'est la façon d'allier le rationnel et l'absurde, le logique et l'illogique, de les faire se rencontrer en fait. C'est donner une apparence de logique à quelque chose qui est complètement absurde et qui n'a aucun sens. Si on voulait trouver un équivalent en France, on a hein, des choses un petit peu comme ça, mais il y a par exemple une série qui s'appelle Au service de la France, qui est justement typiquement française, qui est sur un réseau d'espionnage, etc., français. Mais la façon dont la série met en scène toute l'absurdité et à la fois la logique de l'administration française, c'est typiquement ça, le nonsense, c'est donner une illusion de rationalité à quelque chose qui, quand on s'arrête 2 minutes dessus, est complètement crétin. Donc c'est une façon de jouer sur ça, et c'est très intéressant du point de vue des mécanismes de l'humour, notamment, et d'un point de vue intellectuel, de voir comment, justement, on peut faire se côtoyer, se rencontrer, se superposer, même, le logique et l'illogique. c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus accessible au premier visionnage, mais généralement les fans, notamment de Sacré Graal, ont vu le film des dizaines de fois et le connaissent par cœur, et on accède justement à cette façon dont le récit, dont les dialogues sont écrits pour justement se rencontrer ces deux univers, l'absurde et le logique, ou l'absurde et le rationnel, et la façon dont l'humour naît justement de cette juxtaposition qui ne devrait pas avoir lieu. On devrait avoir deux opposés, vraiment d'un côté quelque chose de très logique et de l'autre côté quelque chose qui n'a aucun sens. Là, c'est la façon dont ça devient une seule entité, et c'est ça qui crée l'humour. Donc mon but, c'était aussi ça, c'était de voir comment les Monty Python, d'essayer de décortiquer vraiment leur écriture, ce qui n'est pas simple parce qu'ils écrivent à plusieurs, hein, mais la façon dont ils arrivent à créer ce mélange et à faire naître l'humour de tout ça.
Il y a toute une partie de votre livre qui est consacrée à la genèse de ce film. Et on y apprend que son budget est ridicule, qu'il a été abondé, ce budget, entre autres, par les membres du groupe Led Zeppelin, qui mm-hmm. voulaient payer moins d'impôts, en fait. Et moi, je trouve que cette alliance, elle constitue une bonne synthèse de tout ce qui caractérise alors une certaine idée de la contre-culture en Grande-Bretagne.
Tout à fait. C'est assez fascinant, hein, la façon dont, notamment dont le film est devenu un succès vu d'où il partait, parce qu'il a été rejeté par les grands studios de production, et le groupe des Monty Python s'est dit, voilà, on veut quand même faire notre film, on va le faire à notre façon. Ils se sont arrangés avec leur réseau, leurs amis, etc., pour réussir à obtenir des financements. Et parmi leur réseau, parmi leurs amis, il y avait notamment plein de musiciens, même des stars, hein, du rock, etc., de l'époque. Parce que c'était des gens qui appréciaient le groupe des Monty Python, on va dire, humainement. Hein, il y avait des amis proches parmi eux. Et ça a continué après avec la production de La vie de Brian, leur autre long métrage. C'était aussi des fans de leur travail, parce que les Monty Python étaient déjà assez connus en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, par les sketchs de leur émission Monty Python Flying Circus. Et ils ont capitalisé sur ça pour pouvoir proposer quelque chose. Et on se retrouve avec une œuvre, alors qui n'est pas totalement indépendante, parce que justement, il y a eu des producteurs, mais le groupe n'avait pas cette pression que peuvent avoir d'autres créateurs de la production, qui faisait que ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, parfois avec des réussites, parfois avec moins, parce que ça a été un gros, gros travail pour arriver au résultat qu'on connaît maintenant. Le film a dû être... le tournage a été catastrophique, le montage a dû être refait 14 fois pour pouvoir... pour que ça marche, pour que ce soit drôle. Et les investisseurs ont dû se faire des cheveux blancs, je pense, hein, au fur et à mesure. Mais voilà, ça leur a donné justement toute cette liberté de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est un grand principe du groupe des Monty Python, pas que dans Sacré Graal, mais dans toute leur écriture. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent, et se libérer au maximum de toutes les contraintes, que ce soit des contraintes donc de production, de budget, ou des contraintes narratives. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un film qui a un générique initial qui n'a aucun sens, un film qui n'a pas de fin techniquement. Enfin voilà, ils se libèrent aussi de ce qui fait a priori un film ou une histoire de façon générale, avec un début bien défini, un milieu qui a des péripéties et une fin bien définie aussi. Non, leur but, c'est de se dire, on fait ce qu'on veut, comme on veut, et s'il faut tout envoyer bouler, on le fera. Alors, ils ont eu la chance que ça marche et que ça trouve un succès avec justement ce gros travail qui a été fait, mais effectivement, c'était risqué de se positionner comme ça, à ce point, en électron libre, en fait, et en représentant de la contre-culture.
Vous écoutez Justine Breton, auteure de Monty Python Sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones, paru dans la collection Contre-champ des éditions Vendémiaire au micro de Culture Prohibée. Donner une idée de l'ambiance du tournage, vous expliquez quand même que les animaux balancés des remparts du château français sont des jouets, des oiseaux de basse-cour, mais aussi des animaux morts. Donc ça devait être assez hallucinant quand même, je pense. Hein.
C'est ça, c'est parce qu'en fait, sur le tournage, alors ils ont fait beaucoup de choses par eux-mêmes parce que justement, ils avaient très peu de moyens, donc ils ne pouvaient pas se permettre d'engager, par exemple, des voitures avec des chauffeurs. Donc ils avaient un genre de minibus qui transportait les acteurs, une partie de l'équipe, etc. Et c'est arrivé plusieurs fois pendant le tournage qu'ils s'arrêtent sur le bord de la route pour récupérer un animal écrasé, un lapin, une poule ou quelque chose comme ça, pour pouvoir faire cette scène et pour pouvoir rajouter un petit peu de réalisme peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, rajouter des effets dans cette séquence. Et ça, c'est quelque chose qui représente bien justement ce qu'ils ont voulu faire, sachant que ils profitent du film pour transmettre une vision du Moyen-Âge qui correspond bien à ça, en fait. C'est des animaux morts qu'on balance par-dessus les remparts pour attaquer les soldats qui sont en dessous. Ça représente bien ce qu'ils considèrent être l'esprit du Moyen-Âge, à la fois un côté un peu atroce, hein, quand même, parce que, et en même temps un côté très, très spectaculaire de la démonstration de pouvoir.
Vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, ce film, c'est une déconstruction du mythe arthurien. C'est aussi, je trouve, alors l'exemple qu'on vient de citer à l'instant est très révélateur, il y a aussi les cut-outs en animation de Terry Gilliam, c'est aussi pour moi un film, et ça vous le dites dans le livre, hein, à plusieurs reprises, qui souligne l'absurdité du cinéma à grand spectacle. Je pense que ça, par exemple, ça a beaucoup compté pour un certain Alexandre Astier, si on se situe un peu dans les héritiers de ce film.
Tout à fait, et ça c'est quelque chose aussi qui est typique, hein, dans la veine des Monty Python, c'est de dire justement on fait ce qu'on veut et ça reste du cinéma, c'est-à-dire que ils sont sérieux dans leur écriture, ils sont sérieux dans ce qu'ils font, ils sont pas très organisés et pas très sérieux dans leur façon de faire le tournage, clairement. Ils se sont améliorés pour La Vie de Brian. Il y avait quelque chose de très amusant pour eux de faire ce film, mais ce qui fait que ça manquait parfois un petit peu de rigueur et d'organisation. Donc, ce qui explique que le tournage soit parti un petit peu dans tous les sens à certains moments. Mais pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est de ce qu'ils voulaient représenter, etc., ils sont très sérieux sur la façon dont ils font de l'humour. Mais ils ont quand même ce recul en disant « Oui, mais on fait de l'humour, on fait du cinéma. C'est juste du cinéma. » L'idée, c'est de se prendre au sérieux pour la façon dont on représente les choses, mais au bout d'un moment, ça reste que du cinéma, ça reste que du spectacle. Et donc, par définition, hein, le cinéma, c'est aussi un art de l'illusion. C'est ce sur quoi ils insistent, par exemple, quand on a la scène où les chevaliers arthuriens arrivent à proximité du château de Camelot et qu'ils sont tout fiers, et qu'il y a l'écuyer d'Arthur, donc, interprété par Terry Gilliam, justement, qui rappelle, il s'en est Marlowe, en fait, le château, c'est juste une maquette qu'on a mis au loin parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'a pas eu la possibilité de tourner face au vrai château. Donc, voilà, c'est une façon d'assumer ça en disant, oui, mais au bout d'un moment, c'est qu'une maquette, ça reste du cinéma, c'est une illusion, autant le dire, autant jouer là-dessus. Le but, c'est pas de faire un documentaire sur la légende arthurienne, le but, c'est pas de prendre des grands airs, on fait notre histoire à notre niveau et on reconnaît que justement on n'est que sur un art du divertissement et qu'il n'y a pas de raison de prétendre que c'est autre chose. Et il y a ce regard à la fois très sérieux sur l'écriture comique et en même temps très désabusé sur tout le business qui va autour, justement tout le business cinématographique. Ça, c'est vraiment essentiel dans dans l'évolution du groupe, et vous avez raison, ça se retrouve en partie dans Kaamelott. quand on a Alexandre Astier qui écrit Kaamelott, il écrit son histoire, ce qu'il veut faire, la façon dont il veut faire évoluer ses personnages, etc. Et en même temps, il a conscience que un des épisodes qui a le mieux marché dans Kaamelott, c'est l'épisode qui s'appelle Le Monde d'Arthur, qu'il a écrit à l'arrache alors qu'il était fatigué et qui représente Arthur en train de jouer avec sa nourriture parce que lui aussi il est épuisé. Enfin voilà, c'est aussi une façon de se dire que bah oui, on écrit, on a des choses très techniques, il y a des choses très sérieuses dans la façon dont on travaille, parce que faire rire les gens, c'est un travail, et je pense que c'est un travail très compliqué d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, on fait, entre guillemets, juste rire les gens. C'est noble en soi, mais c'est pas la peine de prendre des grands airs. On reste sur quelque chose de qui doit rester très naturel, en fait, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne pour ces artistes et pour ces auteurs. Et les Monty Python ont eu, en fait, une grande postérité, oui, une grande postérité, ça c'est sûr, mais il y a pas mal d'auteurs, pas mal d'artistes qui ont suivi un petit peu cette veine. Alors, beaucoup en Angleterre ou aux États-Unis, mais effectivement, c'est intéressant qu'en France, on ait eu quand même quelques créateurs comme Alexandre Astier, alors, qui certes a beaucoup été bercé hein, par cette culture anglophone, mais qui s'inspire pour l'adapter aussi à un public francophone et à des attentes différentes.
Alors, dans votre livre, hein, je rappelle, hein, Monty Python, Sacré Graal, qui est paru dans la collection Contrechamps aux éditions Vendémiaire, vous revenez, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, vous revenez, c'est un film non sensique, mais ça conclut au XXe siècle, vous revenez sur cette fin. Cette fin, elle adopte les atours du docudrama, cher à Peter Watkins. Moi, je me demande toujours comment cette fin a été perçue par le public à l'époque, parce que même aujourd'hui encore, cette fin, elle reste surprenante, c'est très abrupte, et ça nous amène dans une certaine réalité avec une prise en compte aussi des événements qui secouaient la société d'alors. C'est assez étonnant comme fin quand même.
Alors oui, après c'est vrai que il y a les Monty Python ont tendance à jouer sur ça, jouer sur là par exemple la confrontation des époques, quand on a les policiers qui débarquent et qui arrêtent Arthur et ses chevaliers et qui interrompent le film, hein, concrètement et littéralement, puisque le film s'arrête comme ça, une sorte de anticlimactique, hein, c'est un petit peu, voilà, on n'a pas de fin. Après, il cherche, enfin le groupe dans son écriture, les membres individuels c'est un peu différent, mais en tant que groupe, quand ils étaient encore vraiment les Monty Python, ils cherchent pas à utiliser leur humour ou leur écriture ou leur film pour dénoncer ou pour transmettre des messages politiques. Oui, il y a de la politique parce que en fait ça fait partie de notre société, mais leur but c'est plus de se moquer de toutes les formes d'autorité, y compris de la leur, hein, l'autorité de l'auteur par exemple. C'est plus une façon de, encore une fois, de remettre en question toutes les règles et tous les codes établi, plutôt que de faire de leur œuvre un vecteur d'un message précis. Par exemple, je pense contre la guerre au Vietnam ou des choses comme ça. C'est jamais voulu, en fait, dans leur... en tout cas, c'est ce qu'ils affirment dans leur écriture. C'est jamais voulu que dans leurs œuvres, et notamment dans Sacré Graal, il y ait une dénonciation et qu'il y ait un sous-texte politique. On a tendance, nous, à le voir comme ça, et les spectateurs de l'époque ont vu comme ça aussi, parce que ça fait partie ça fait partie de notre quotidien. Et la scène, par exemple, la séquence dans Sacré Graal, où Arthur combat le chevalier noir et lui coupe petit à petit un bras, une jambe et l'autre jambe, ça a été assez mal vécu en fait par le public au moment des premières diffusions, justement parce qu'il y avait ce contexte de la guerre du Vietnam et qu'il y avait des tensions, et il fallait en fait que la scène soit jouée à fond, justement. C'est à partir du moment où le personnage a plus de bras et plus de jambes que vraiment on est dans l'excès et que l'humour né de cette absurdité de l'excès de la cruauté et en même temps du personnage qui ne se rend absolument pas compte qu'il a perdu ses membres et qui refuse de s'avouer vaincu. L'humour naît de ça. Mais Dans un premier temps, je crois que c'est Terry Gilliam qui raconte ça, le seul qui vient des États-Unis, hein, du groupe, c'est peut-être pas anodin non plus, mais qui explique que les gens avaient du mal à percevoir que on était vraiment dans l'absurde, on était dans l'humour, et qu'il y avait ce moment de presque de terreur dans la salle en disant, mais là on est sur une représentation de la violence de la guerre, qui est quelque chose de malheureusement très contemporain, mais qui l'est toujours aujourd'hui, et quelque chose qui touchait véritablement le public. Donc il fallait attendre qu'on soit dans l'excès, dans quelque chose qui paraît vraiment d'un autre monde, qui paraît vraiment totalement déconnecté de nos préoccupations, pour que ça fasse rire, parce que on était encore dans un contexte où c'était trop difficile à vivre si c'était perçu au premier degré. Donc voilà, ils ont dû trouver un peu cet équilibre, sachant que justement, leur but, c'est pas d'avoir un message politique, même si, j'ai envie de dire qu'ils le veuillent ou non, il y a un message politique dans leurs œuvres à partir du moment où, que ce soit dans les sketchs du Flying Circus, dans Sacré Graal, dans La vie de Brian ou dans Le sens de la vie, il y a un message, il y a un sens politique au sens où, justement, ils vont passer leur temps à remettre en question les codes, à remettre en question toutes les formes d'autorité possibles, parce que c'est ce qu'ils aiment faire, parce qu'ils trouvent que la comédie vient de là. Mais qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le revendiquent ou non, on a un message politique sous-jacent. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas une cible précise et que c'est plus une... Oh, j'ai pas envie de dire une philosophie de vie de la part des Monty Python. Let us ride to Camelot. We're knights of the round table, our shows are for the table. So many times we give and rhyme, cut off by dancing able. We're off from mad in Camelot, we sing from the diaphragm. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral. Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right.